play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Ulysse vous emmène dans le premier d'une série de voyages à la recherche des origines de la vie.
Auditeur, auditrice, bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire. Je m'appelle Ulysse, et ensemble nous allons, si vous le voulez bien, entreprendre un voyage long de quelques chroniques pour découvrir la démesure de cette passion de l'humanité pour retracer les origines de toute vie sur Terre. Je commencerai aujourd'hui très arbitrairement en vous parlant de moi, parce que, comme tout le monde, j'aime parler de moi. Je suis géologue. J'étudie l'histoire de la Terre et plus particulièrement l'époque de l'AD1. L'AD1, c'est la période qui a vu naître la vie il y a environ 4 milliards d'années, alors que le système solaire finissait tout juste de se former. Je fais partie d'une communauté de chercheurs qui traquent les origines de la vie sur Terre, ainsi que les traces de vie dans l'univers. Certains sont géologues, comme moi, d'autres sont physiciens, chimistes, biologistes, philosophes, astrophysiciens, planétologues et j'en passe. Entre nous, nous nous appelons exobiologistes. Parler à la radio, c'est presque comme parler à quelqu'un dans le noir. Impossible pour l'auditeur de savoir à quoi ressemble celui qui lui parle. Au son de ma voix, votre imagination s'active, puisque l'on doit imaginer ce que l'on ne voit pas. Vous essayez de vous représenter le scientifique devant son micro qui vous parle d'un sujet dont vous ne voyez pas encore le bout. L'imagination, c'est le premier aspect que j'aime dans ma recherche. Je dois imaginer ce qui ne peut pas être vu. Où donc veut-il en venir, vous exclamez-vous. Vous avez raison, je ne vais pas vous laisser dans le noir plus longtemps. À la base de ma recherche, il y a l'histoire d'une idée qui commence, elle aussi, dans le noir. Alvin était, comme vous, dans le noir quand il a découvert ce qui allait modifier profondément l'idée que les chercheurs avaient sur l'origine de la vie. Mais Alvin n'était pas aussi confortablement que moi installé dans un fauteuil moelleux devant mon micro, non. Il était dans l'eau, soumis à une pression 80 fois plus forte que celle sur nos épaules, et il faisait 2 degrés Celsius autour de lui. Ne vous inquiétez pas pour lui, Alvin est un sous-marin de l'Observatoire océanographique américain. C'est un habitué. C'est un soir de décembre, à la fin de l'an 2000, au milieu de l'océan Atlantique, à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Cela fait déjà plusieurs heures que le sous-marin s'est enfoncé dans les profondeurs de l'eau. À la surface, une tempête s'approche, et les scientifiques à bord du grand navire de recherche, pilotant à distance le sous-marin, se demandent s'il n'est pas temps de faire remonter l'engin et de fuir avant que les lourds nuages ne tombent sur eux. Voilà quelques semaines qu'ils naviguent au-dessus d'une montagne sous-marine. Le massif Atlantis fait 20 km de long et 4000 mètres d'altitude. Mais il repose au fond de l'eau, son sommet culminant à quelques 800 mètres de profondeur. Une véritable montagne, donc, que les scientifiques ont explorée afin de comprendre un peu mieux comment se formaient ces structures sous-marines qui rivaliseraient presque avec le Mont Blanc. Alvin continue sa plongée et éclaire les abysses de ses puissantes lampes. La morne surface de roches fracturées et altérées n'enchante pas les chercheurs. Le sol est désert, il n'y a qu'Alvin et quelques rares poissons. Soudain, apparaît sur les écrans des scientifiques une forêt de colonnes blanchâtres, ressemblant à d'immenses stalagmites. De grands piliers aux formes arborescentes, boursouflées, presque comme des coraux gigantesques, s'étalent sur plusieurs centaines de mètres autour du sous-marin. Dominant toutes les autres, une grande pointe un peu brune, faite de concrétions de calcaire, s'élève à plus de 60 mètres de hauteur. Les chercheurs, ébahis, ne comprennent pas tout de suite ce qu'ils voient sur les caméras du sous-marin. Et puis, à mesure qu'Alvin se rapproche d'un des édifices, ils observent que la température s'élève et que, petit à petit, elle atteindra 90 degrés Celsius contre la paroi de ses pointes. Il s'agit là de cheminées hydrothermales sous-marines, un véritable champ de cheminées qui sera baptisé Lost City, la cité perdue. La plus grande des colonnes portera plus tard le nom de Poséidon, en hommage au mythique dieu des océans de la Grèce antique. Alors que la vie semblait absente du fond de l'océan, les caméras d'Alvin enregistrent les images de nombreux petits animaux à coquilles, souvent transparents. Des gastéropodes, sortes de petits escargots de mer, des vers polychètes et des amphipodes, des petits crustacés. Rares mais présents, les scientifiques voient aussi des crabes, des crevettes, des oursins, des anguilles et quelques coraux habitués aux fortes profondeurs. Et puis, de rares poissons que l'on trouve généralement près des épaves de bateaux nagent devant le sous-marin. Mais, surtout, à la sortie des conduits de cheminée, là où la température est la plus forte, de très nombreux filaments gris-blancs de plusieurs centimètres de long ondulent doucement. Ce sont des colonies de micro-organismes. Parce qu'ils aiment les fortes pressions et températures, des conditions qualifiées d'extrêmes pour la vie dans notre référentiel d'humain, on les appelle organismes extrémophiles. Lost City est une oasis au fond des océans, et le sous-marin y projette une lumière que les organismes n'ont jamais vue auparavant. Ici, on pourrait dire que rien ne dépend de la lumière du soleil. La vie se fait dans le noir le plus total. Depuis, deux autres expéditions scientifiques ont mesuré, échantillonné, photographié sous tous les angles le fabuleux écosystème et la roche qui l'abrite. On a appris beaucoup de choses de ces études. Par exemple, 58% de la faune étudiée est endémique à Lost City, c'est-à-dire qu'elle ne peut être trouvée ailleurs que dans ce lieu. On sait également que ces cheminées hydrothermales sont actives depuis 150 000 ans pour les plus vieilles, et crache dans un panache diffus et presque invisible, un fluide à 90 degrés Celsius, très riche en nutriments, dont se régalent les nombreux micro-organismes installés sur l'édifice. Des cheminées sortent en effet principalement deux molécules, procurant de l'énergie à qui sait s'en servir, le dihydrogène et le méthane, qui sont l'équivalent de notre sucre pour les micro-organismes. Cette source d'énergie est abiotique. Elle n'est pas produite par le vivant, mais par l'interaction entre la roche et l'eau, simplement. À la surface de la planète, l'énergie du soleil est transformée en molécules organiques par les plantes, qui pourront ensuite être consommées dans la chaîne alimentaire. À Lost City, le soleil est remplacé par l'eau et la roche. La vie se fait dans le noir le plus total. Un des plus gros impacts de cette découverte a été de se rendre compte qu'il y a 4 milliards d'années, la vie aurait pu apparaître dans ce genre d'environnement, là où la géologie, la chimie et la biologie sont si intimement liées. L'imagination des scientifiques n'est pas tout à fait sans limites, et souvent on se repose beaucoup sur ce que l'on connaît. Cette découverte a été un sacré coup de pouce à notre imagination, et c'est pourquoi en 2004, le chercheur de la NASA Mike Russell a suggéré qu'un champ hydrothermal ressemblant à Lost City, au fond de l'océan primitif, aurait été un lieu optimal pour l'émergence de la vie sur Terre. Le bon sens nous mène à penser en effet que l'abondance d'énergie dans un environnement stable, pendant de longues périodes de temps, faciliterait l'apparition de la vie. Je vous disais au début qu'à l'origine de mon travail, il y a cette histoire. Dans mon laboratoire, nous pensons que c'est l'interaction entre les molécules chimiques dissoutes dans l'eau des cheminées hydrothermales et les roches constituant ces cheminées qui a pu permettre à la vie d'apparaître. Je mène des expériences visant à reconstituer les conditions qui existent dans des lieux propices à la vie, tels que Lost City, et je tente de voir comment l'eau, la roche, la pression, la température peuvent favoriser la formation et la complexification des molécules qui constituent le vivant. Comment de simples briques élémentaires peuvent former de l'ADN, des protéines, des lipides? Voilà la question. En d'autres termes, je joue au Lego. Mais pour que les briques puissent s'empiler et s'assembler toutes seules, il faut trouver les bonnes conditions physiques et chimiques. C'est un pas immense qu'il faut franchir, et Lost City nous apporte peut-être une réponse. L'eau et la roche, dans un environnement chaud et sous pression. La solution à cet épineux problème n'est pas encore trouvée, mais depuis cette découverte, une nouvelle idée a vu le jour et nos connaissances s'accumulent. Nous autres exobiologistes devons avoir l'idée d'une chose qu'on ne pourra jamais voir. L'histoire de l'origine de la vie n'a pas directement laissé de traces. Nous avançons dans le noir, et seules quelques lanternes comme la découverte de Lost City guident notre chemin qui petit à petit s'éclaire et devient plus net. Mais à mesure qu'on y voit plus clair, on se rend compte également qu'il y a de véritables montagnes à franchir. Vertigineuse question. Sur ce trépidant suspense, je vous laisse. Rendez-vous dans nos prochaines chroniques pour continuer notre voyage.
C'était Compteur d'ondes, Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.